France Info.
Bienvenue dans Les Informés, c'est parti pour une demi-heure de décryptage de l'actualité. Bonjour Renaud
Bonjour
Dely.
Agathe.
Deux sujets à la une ce matin. Qui pour gouverner la France? Va-t-on enfin sortir de ce jour sans fin? Et un accord historique, c'est ce qu'estime Donald Trump alors que son plan de paix pour Gaza doit être signé dans les heures qui viennent. Pour nous éclairer, pour tout comprendre autour de la table, nos informés, Myriam Ankawa, présentatrice de l'émission Tout est politique les vendredis, samedis, dimanches sur France Info TV. Bonjour Myriam.
Bonjour Agathe, bonjour à tous.
Adrien Brachet, journaliste politique au Point. Bonjour Adrien.
Bonjour Agathe.
Et Aurélie Herbemont, chef adjointe du service politique de France Info. Bonjour Aurélie.
Bonjour à tous.
Renaud, on commence avec un délai de 48 heures qui se termine et un délai de 48 heures qui s'ouvre. Avec cette question, Sébastien Lecornu a-t-il réussi sa mission?
D'un délai à l'autre, vous avez raison, et d'un Premier ministre à l'autre, l'Élysée a donc... annoncé hier soir, confirmé la nomination d'un nouveau Premier ministre d'ici demain soir. Alors si mes comptes sont exacts, je suis pas sûr, hein, je peux me tromper parce que le rythme s'emballe. Ce serait donc le quatrième Premier ministre en 11 mois, en tout cas le quatrième depuis la dissolution de juin 2024, le huitième depuis le début du premier mandat d'Emmanuel Macron, bref. Et a priori ce ne serait pas Sébastien Cornu qui considère que sa mission est terminée, encore que, sait-on jamais. Le Premier ministre, donc, démissionnaire, vous me suivez, je parle de Sébastien Lecornu.
On essaye, mais c'est pas facile.
Et donc venu rendre compte hier soir au journal de 20h de France 2 de cette mission préalable de 48 heures, c'est-à-dire ce nouveau tour de consultation, et à l'écouter, un chemin est possible parce qu'il y a une majorité à l'Assemblée nationale, mais attention, pas n'importe laquelle, Sébastien Lecornu.
Au fond, ce soir, ce que je peux dire, après mes consultations, c'est qu'il y a une majorité absolue à l'Assemblée nationale qui refuse la dissolution. On a une majorité très relative de plusieurs formations politiques qui, au fond, sont prêts à s'accorder sur un budget commun. Des formations politiques de l'opposition, notamment de gauche, qui, au fond, veulent aussi cette stabilité, veulent un budget pour la France et pour la sécurité sociale avant la fin de l'année.
Alors, une majorité absolue contre la dissolution, ça c'est assez clair, c'est ceux qui sont, ce sont tous les partis politiques qui sont revenus voir d'ailleurs Sébastien Lecornu à Matignon. Rappelons que le Rassemblement National et la France Insoumise n'ont pas daigné aller au rendez-vous. Une majorité plus relative qui est prête à s'accorder sur un budget, ça ressemble pour l'instant à ce qu'on appelait feu le socle commun, enterré par Bruno Retailleau, c'est devenu donc la plateforme de stabilité, si on suit la novlangue en cours. Mais au-delà, est-ce qu'il y a effectivement une majorité pour aboutir à un accord de non-censure et donc au vote d'un budget d'ici à la fin de l'année? Et puis, quel profil ça peut donner pour le nouveau Premier ministre attendu dans les heures qui viennent?
Est-ce que vous y voyez plus clair à l'issue de ces 48 heures de mission, Adrien Brachet?
Pas vraiment, je rejoins ce que disait Renaud, c'est-à-dire que la novlangue change, mais la situation au fond est un peu la même, et moi je trouvais qu'hier, au cours de son allocution, Sébastien Lecornu, en fait, reposait un peu les mêmes questions qui étaient celles que l'on se posait en fin de semaine dernière lorsqu'on discutait du budget, et qu'en fait on se posait déjà à l'été 2024, qui est comment on arrive à mettre autour de la table des forces politiques qui ont des agendas politiques extrêmement différents, et comment on fait pour faire des compromis. On en est encore là. Et il parle d'un chemin, mais le chemin semble toujours quand même très escarpé. Sur la question de la réforme des retraites, on ne sait toujours pas vraiment ce qu'il en est. Il parle d'un débat, mais on ne sait pas concrètement s'il y a suspension ou pas suspension. Et les différents blocs qui pourraient s'accorder pour une non-censure sont encore pas totalement décidés. On voit que le bloc central n'est pas tout à fait d'accord sur est-ce qu'on consent ou pas une suspension de la réforme des retraites. Les Républicains sont divisés entre Laurent Wauquiez qui est Bruno Retailleau. Et on voit bien que le Parti Socialiste aussi est tiraillé entre d'un côté sa volonté de dire « je m'affiche en partie de gouvernement » et de l'autre côté sa peur de passer pour une béquille du macronisme et de s'isoler de ses partenaires que sont notamment les écologistes. Donc tout le monde a son agenda politique et on est un peu bloqué chacun dans son couloir de natation.
Il y a les agendas politiques, il y a les sujets de fond, il y a aussi la rancœur après ce qui s'est passé. Marc Fesneau a eu des mots durs là sur Bruno Retailleau, son irresponsabilité. Oui. Il a dit que c'était de sa faute si Sébastien Lecornu avait démissionné. Et en même temps, il a essayé de justifier cette espèce de plateforme commune. Ils peuvent vraiment travailler ensemble, Myriam, ces gens-là?
Ça semble extrêmement difficile. C'est vrai que moi, j'étais étonnée. Il aurait pu cogner beaucoup plus fort Marc Fesneau. Clairement, il y a des coups de griffe, il y a de la rancœur, mais c'est le « je t'aime moi non plus ». Ils sont contraints de travailler ensemble parce que cette fameuse plateforme de stabilité, c'est 210 députés. Donc c'est à ce jour-là... majorité relative la plus grande, considérant qu'évidemment elle est très faible au regard des 289 qui constituent la majorité absolue. Donc voilà, le chemin il est extrêmement étroit. Moi, ce que je retiens, c'est que de l'interview du Premier ministre démissionnaire hier, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait un Premier ministre, un nouveau Premier ministre qui ait des ambitions présidentielles. Ça, je pense que c'est très important.
Et même un gouvernement.
Enfin, il le découvre, que cette présidentielle et que ces municipales pèsent. En fait, il essaye de dessiner un accord de non-censure avec un gouvernement technique. Moi, c'est ce que j'ai vaguement compris. C'est-à-dire qu'il essaye de faire comprendre aussi à l'opinion qu'un Premier ministre de gauche n'aurait pas du tout ses 210, encore moins. Donc, à quoi bon essayer ? Ça, je crois qu'il faut faire de la pédagogie.
Hein. Députés,
On est vraiment dans un moment d'arithmétique politique. Moi, très régulièrement, je vérifie le nombre de députés sur le site de l'Assemblée nationale pour dire, bon, alors, j'ajoute les écologistes, je les enlève, je mets le RN où il s'abstient. Moi, il y a une nouveauté aussi, c'est qu'elle censure tout, Marine Le Pen. Donc ça permet aussi de savoir où est-ce qu'elle habite. Et la troisième nouveauté, c'est le débat sur les retraites. Alors, il n'a pas pu dire qu'il allait suspendre, même si l'idée fait son chemin, y compris au sein de la droite. Et là, je parle des LR. Horizon d'Édouard Philippe a l'air d'être très réticent à soutenir cette suspension. Mais l'idée fait son chemin, donc il redonne la patate chaude aux députés. Il y aura un vote. Il faut comprendre, il faut tout décrypter. S'il y a un débat, il y aura un vote. Ce n'est pas juste un débat pour s'amuser à l'Assemblée. Et s'il y a un vote à l'Assemblée sur les retraites, là, il y a une majorité pour dire non à cette réforme-là. La suspendre, peut-être, la geler, pas forcément l'abroger. Mais là, bonjour, Marine Le Pen, elle ne peut pas s'abstenir sur les retraites. Elle a des électeurs qui ne veulent pas de cette réforme à 64 ans.
Aurélie Herbemont, elle va être suspendue, la réforme des retraites, ou pas ?
Alors, si quelqu'un avait la réponse claire et définitive à l'heure où on parle, qu'il se dénonce. Non, ce qu'on voit bien, c'est que de toute façon, Sébastien Lecornu était dans une position compliqué hier soir, il pouvait pas dire je la suspends. Il est Premier ministre démissionnaire en répétant et répétant que sa mission est terminée. Donc de toute façon, il ne pouvait pas s'engager sur une suspension. Donc il dit il y aura un débat parlementaire. Je suis totalement en phase avec ce que dit Myriam. S'il y a un débat, on sait très bien comment ça va finir à l'Assemblée. D'ailleurs, certains macronistes qui avaient été très courroucé en découvrant la proposition d'Elisabeth Borne de la suspendre et qui ne voulait pas en entendre parler, se sont dit hier soir, ah non mais en fait Sébastien Lecornu va plus loin qu'Elisabeth Borne, parce que si c'est un gouvernement qui dit on suspend, on maîtrise, donc c'est quelques centaines de millions pour 2026 qu'on perd.
3 milliards pour 2027.
Alors que si c'est aux mains des députés, alors là, oui, ça peut être des milliards si jamais elle finit par être abrogée. Donc personne ne sait vraiment comment ça peut se terminer. Ça dépendra du futur Premier ministre. Est-ce que le futur Premier ministre sera sur une ligne Lecornu, il faut absolument un débat ? Ou est-ce que ce sera un autre Premier ministre qui prendra une initiative ? De toute façon, il y a beaucoup de divisions au sein de Feu, le socle commun, la plateforme de stabilité, hein, la PS, on pourrait l'appeler d'ailleurs.
Donc on ne sait pas. Vous parlez du Premier ministre, qui pour Matignon, Renaud Dely, est-ce que ça pourrait être un Lecornu 2, le futur gouvernement ?
Ça paraît compliqué. Ce ne serait pas totalement illogique, hein, au regard justement de cette négociation de la dernière chance qu'ont été les dernières 48 heures. Mais ça paraît compliqué dès lors qu'il a répété que sa mission était terminée et qu'il y a eu le clash qu'on connaît avec Bruno Retailleau. Si on lit en filigrane, je rejoins ce que disait Myriam Mankawa à l'instant, ce qu'a dit Sébastien Lecornu hier, ce qui est clair, c'est que le RN et LFI sont maintenant dans le dégagisme. Hein, il s'agit de toute façon de tout censurer et de provoquer des élections anticipées, qu'il s'agisse de législatives ou de présidentielles. En fait, c'était déjà la position de Marine Le Pen, mais elle ne l'assumait pas comme telle. C'était déjà la position de Marine Le Pen depuis qu'elle disait il faut une dissolution. Par définition, une dissolution nécessitait qu'elle censure tout gouvernement. Mais ça fait pas une majorité de blocage à l'Assemblée. Donc l'équation, c'est la même, mais c'est la même depuis le 7 juillet 2024. C'est-à-dire qu'il faut que ceux qui ont participé peu ou prou, avec plus ou moins d'entrain au Front Républicain, se mettent d'accord pour essayer de gouverner ensemble, ou en tout cas de laisser gouverner les autres. Donc ça, c'est la même équation. Et quand on écoute Sébastien Lecornu hier, puisqu'il faut écarter toutes les ambitions présidentielles, d'ailleurs ça pourrait signifier que Bruno Retailleau quitterait le gouvernement, puisqu'il a, lui aussi des ambitions présidentielles, on tombe plus vers un Premier ministre dit technicien, plutôt qu'un Premier ministre de gauche qui serait insupportable pour LR, et probablement pour une bonne partie des macronistes, d'un Premier ministre de droite qui serait insupportable pour les socialistes et aussi probablement pour une partie des macronistes.
Et peut-être ou
d'un
une partie des LR.
Voilà, voire des LR, bien sûr. C'est vrai que les LR, c'est très compliqué. Enfin, d'ailleurs, ces clivages, ils traversent tous les partis. On voit que tout le monde est extrêmement divisé. On a vu les réactions à l'hypothèse de la suspension des retraites chez les macronistes. Ça a mis le feu à la plaine. On voit les socialistes qui se déchirent, vous le disiez. On voit bien que tous les clivages, il n'y a plus rien de tient, en quelque sorte, dans ce système. Donc, on tombe plutôt sur un Premier ministre dit technique qui n'a aucune ambition politique avec tous les politiques et les présidentielle éventuelle hors du gouvernement.
Sébastien Lecornu a bien précisé que lui n'avait pas d'ambition présidentielle hier.
C'est vrai, c'est vrai.
Vous opinez de la tête, Adrien, quand Renaud parle.
Oui, c'est un peu, je trouve qu'entre les lignes, c'est un peu... Alors, encore une fois, comme disait Aurélie, il faut vraiment lire entre les lignes, les virgules, les sous-textes, mais ce qui ressortait, en effet, c'était qu'il semblait écarter l'option Premier ministre de gauche qui, pourtant, montait hier, et les socialistes étaient plutôt déçus à l'issue de cette interview. Et en effet, ce qui semblait se profiler, c'est l'option d'un gouvernement technique, d'un Premier ministre technique. La question, c'est... parce que c'est quelque chose qui revient sans cesse dans le débat, l'idée d'un Premier ministre technique, mais qu'est-ce que c'est un Premier ministre technique ? C'est-à-dire, est-ce que quelqu'un qui n'a pas de couleur politique, ça existe réellement. Et ensuite, est-ce que cette personne qui n'aurait potentiellement pas de couleur politique et qui donc ne vexerait personne est capable de composer un gouvernement qui lui-même n'ulcérerait personne ? Puisqu'on l'a vu avec Sébastien Lecornu, il n'y a pas seulement la nomination du Premier ministre qui pose problème, il y a la composition du gouvernement. Donc, même la question du Premier ministre technique, rien n'assure que derrière, les Républicains ne vont pas censurer, que le Parti Socialiste ne va pas censurer.
On avait déjà eu ce débat quand le nom de Thierry Baudet avait circulé. Exactement, à l'époque, on était allé fouiller dans
le
son
président
passé,
du conseil, le président, oui.
Ses prises de position sur l'immigration et tout ça, et finalement ce profil technique et était
en effet,
très agaçant
dire
pour certains.
Toute personnalité a forcément un profil politique. Après, en effet, je pense que ce qui est important, c'est que le Premier ministre qui soit choisi ne soit pas un candidat pressenti nettement pour 2027. Ça, c'est sûr. C'est-à-dire qu'il faut absolument qu'on arrive à sortir de cette obsession généralisée de tout le monde pour la présidentielle et tout le monde qui essaye d'utiliser le gouvernement comme un tremplin pour 2027, alors qu'on devrait commencer à essayer d'utiliser ce gouvernement comme un tremplin pour avoir un budget.
Et éventuellement, juste une parenthèse, il reste peut-être, si on veut pas du tout de profil politique, effectivement, hein, puisque tout le monde en a forcément, il reste peut-être un recours à l'IA, éventuellement. Peut-être que ChatGPT peut
nous sortir.
Encore.
Il y a le nom de Jean-Louis Borloo qui circule, Myriam.
Oui, Jean-Louis Borloo, il a pas mal...
Centriste retraité.
C'est vrai, il coche pas mal de cases. Il a été politique, il ne l'est plus, il est la personnalité de droite assez appréciée par la gauche. On se souvient, ça peut peser, de ce plan Borloo, je ne sais pas si vous vous souvenez,
pour sur les banlieues.
Les banlieues et de cette passe d'armes à l'Élysée avec Emmanuel Macron qui avait tout simplement, publiquement, mis à la poubelle son plan. C'était une véritable humiliation, il était absolument furieux. C'est un gage aussi hein, d'indépendance.
C'est pas un macroniste.
Alors là, c'est pas le profil Sébastien Lecornu dont on dit qu'il voilà, il va matin, midi et soir à l'Élysée dans le bureau de le huis clos faire accepter ses décisions par le président
donc
de la République.
Donc c'est pas sûr qu'il soit nommé.
C'est pas sûr qu'il soit nommé, mais me semble-t-il, là, c'est le dernier Premier ministre. Je ne vois pas comment l'option avant la dissolution, encore une option si ça ne marchait pas. Là, je pense que même les Français l'ont compris. On est arrivé au bout du chemin.
C'est un peu ce qu'on disait avant Sébastien Lecornu.
Oui, c'est vrai.
Oui, c'est vrai, mais il y avait quand même cette option du technique. Moi, je pense que le technique, c'est surtout ne pas appartenir à un parti. Parce que Bruno Retailleau, manifestement, malgré tout, il a été rattrapé par sa base. Il y a une base républicain qui ne comprend pas non plus l'aventure macroniste. Et donc, il faut quelqu'un qui non seulement n'a pas d'ambition, mais n'a pas d'appareil qui puisse le déborder.
Les informés, Renaud Dely, Agathe Lambret.
Les informés avec Myriam Mankawa, présentatrice de Tout est politique sur France Info TV, Adrien Brachet, journaliste politique au Point, et Nicolas Taillard, vous nous avez rejoint, bonjour, reporter bonjour. À la rédaction internationale de Radio France. Renaud, on passe à notre deuxième débat. Est-ce l'heure du cessez-le-feu, enfin, entre Israël et le Hamas?
C'est en tout cas l'information de cette nuit. Israël et le Hamas sur le point de signer donc un accord de cessez-le-feu. Il s'agit de la première phase du plan de paix qui a été présenté par Donald Trump. Cet accord qui ouvre la voie donc à un cessez-le-feu, au retrait de l'armée israélienne jusqu'à une ligne convenue, ça ce sont les mots du président américain, et puis à la libération des otages qui sont encore détenus par le Hamas. Quand d'ailleurs, dans quelles conditions? Il demeure un certain nombre de zones d'ombre, bien sûr, sur lesquelles on va revenir dans un instant. Mais voici comment Donald Trump, qui a lui-même annoncé sur son propre réseau social cet accord dont il se réjouit, évoquait, c'était cette nuit sur la chaîne américaine Fox News, justement, la question de la libération des otages.
Ce sera probablement lundi. La situation est vraiment terrible. Ils sont retenus profondément sous terre. Mais beaucoup de choses se passent en ce moment même pour les libérer.
Donald Trump s'est aussi entretenu avec Benjamin Netanyahou. Ils se sont réjouis tous les deux, ils se sont félicités d'un accord historique. Nous sommes sur le bon chemin pour terminer cette guerre terrible. Ça, ce sont les mots de l'ambassadeur d'Israël en France ce matin sur l'antenne de France Info. Mais donc, comment cet accord va-t-il entrer en application concrètement dans les tout prochaines heures, dans les tout prochains jours d'abord, avec ces différents éléments, hein, le cessez-le-feu, le retrait de l'armée israélienne, la libération des otages. Et puis au-delà, bien sûr, puisqu'on sait que le plan de paix présenté par Donald Trump il y a quelques temps a déjà à plusieurs fois phase dont la mise en œuvre reste extrêmement incertaine.
C'est pas la première fois que Donald Trump vante un accord historique. Nicolas Taillard, est-ce que cette fois c'est la bonne ?
Bah, ça semble le cas, puisque toutes les parties déjà confirment et valident le fait qu'un accord a été trouvé. Il ne manque qu'une signature, elle est indispensable et elle devrait intervenir dès les prochaines heures. On parle d'une possible signature dès la fin de matinée ou la mi-journée en Égypte. Pourquoi ? Parce que c'est la signature qui acte toute la première phase de ce plan de paix, c'est-à-dire que les armes doivent se taire à partir du moment où il y a une signature. Il y avait encore quelques explosions qui ont été entendues dans la nuit dans la bande de Gaza. Et puis surtout, concernant la libération des otages, elle est censée intervenir dans les 72 heures qui suivent la signature. Donc Donald Trump évoque lundi, ce serait presque au plus tard, on commence déjà à évoquer de possibles libérations samedi ou dimanche. Il y a aussi des cas très différents. On rappelle qu'il y a 48 otages israéliens qui sont toujours détenus dans la bande de Gaza. 20 seraient encore en vie, 28 seraient morts. Et donc il y a tout un tas de démarches, d'opérations qui sont à mener d'ici là. Ce qui change tout de même par rapport aux dernières libérations auxquelles on a pu assister, qui étaient à chaque fois échelonnées, c'est que cette libération doit se faire en une seule fois, ce qui évite une forme d'attente insupportable et de loterie macabre pour les familles d'otages qui ont passé la nuit à se réjouir. Là aussi, c'est un signe qui ne trompe pas, parce qu'on a toujours vu beaucoup de prudence du côté des familles d'otages, et que cette nuit, il y avait des larmes, il y avait des embrassades sur la place de Tel Aviv.
Myriam Ankawa.
Oui, c'est un moment important. Personne n'ose parler de joie, mais c'est historique ce qui est en train de se passer. Malgré tout, hein, là, on peut le dire. Ça fait longtemps qu'on l'attendait. Les heures qui viennent vont être déterminantes. La manière dont les otages vont être libérés va être regardée de très près. On se souvient des mises en scène du Hamas qui avaient été insupportables aux Israéliens, aux familles, bien évidemment. La question des corps va être fondamentale. Vous le disiez, il y a 28 corps, c'est l'ombre qu'a donné Donald Trump dans la nuit. Où sont-ils ? Les ont-ils tous ? Ça aussi, c'est une question très douloureuse et très importante. Et puis, il y a la question du retrait. Le cessez-le-feu, en tout cas, il va se mettre en œuvre. La question du retrait, elle est très ambiguë. Là, je parle du retrait de l'armée israélienne de la bande de Gaza. Honnêtement, le plan est suffisamment flou pour que Benjamin Netanyahou ait réussi à aménager à la fois sa coalition, à laisser entendre que oui, les armes se tairaient, mais combien de temps ? Et puis, le retrait, où le retrait ? C'est-à-dire, est-ce que c'est l'ensemble des troupes à Gaza, dans l'enclave, qui se retirent ? Est-ce qu'il y a une zone tampon ? Est-ce qu'il n'y a que des zones seulement qui seront retirées ? Et quel calendrier ? Ça, c'est fondamental. Les deux questions, c'est les otages, le retrait. Et après ? Alors là, c'est le saut dans l'inconnu, parce que le Hamas veut continuer à être présent dans la suite des négociations sur l'avenir de la bande de Gaza, et très clairement, l'armée israélienne n'a pas du tout l'intention de se retirer totalement. Le Hamas n'a pas l'intention d'être démantelé complètement, ni de sortir.
C'est ça la question, Adrien.
On est dans une première étape, c'est ça ?
Oui, c'est-à-dire que c'est quand même une première étape dont on doit tous se réjouir, qui, je pense, est un soulagement à la fois pour les otages et les familles d'otages israéliennes, et à la fois pour la population à Gaza. Mais il y a encore énormément de zones de flou. Je disais ce matin dans le New York Times que la crainte, c'était que cet accord ne soit seulement qu'une pause dans un long conflit au Moyen-Orient, et qu'on ne soit juste dans une pause avant la prochaine crise. Et il reste énormément d'inconnus. En effet, la question à plus long terme de la démilitarisation du Hamas, est-ce que ça se produit, dans quelles conditions ? La question de la gouvernance de la bande de Gaza aussi. Donc il y a toute une série sur le plan de la solution politique qui advient après, et toute une série de questions qui sont toujours en suspens.
On n'a aucune garantie, en fait, Nicolas Taillard, que la suite du plan se déroule comme convenu, le désarmement du Hamas, la gestion de la bande de Gaza.
Non, mais j'allais dire que c'est presque deux choses bien différentes, même si c'est intégré au même plan par la Maison-Blanche, parce que, tout simplement, un plan de cesser le feu sans le moindre horizon politique aurait été refusé par tout le monde. Donc de toute façon, il fallait quand même mettre, j'allais dire, quelques pointillés pour la suite. Mais la première étape, elle est très claire, c'est la libération de ces otages et ça changerait tout parce que la sortie des 48 otages, qu'ils soient morts ou vivants, ça change fondamentalement la donne par rapport à ce qui se passe depuis 2 ans. Ça donne un moyen de pression en moins pour le Hamas. Et j'allais dire, la suite, c'est encore une autre histoire avec beaucoup plus d'acteurs. Il y a quand même un fait essentiel aussi pour la population, c'est l'arrêt des bombardements. Il y avait un humanitaire de l'UNICEF qui se prenait en vidéo cette nuit dans la bande de Gaza en disant « la nuit est calme ». La nuit est calme et c'est rare, c'est quasiment la première fois. Donc voilà, il y a plusieurs étapes. On va voir aussi quels seront les détenus palestiniens qui seront libérés en échange parce que l'accord prévoit qu'il y en ait 2000 qui sortent des prisons israéliennes. Il faudra voir là aussi quels sont les détenus qui reviennent à Gaza.
Et ces étapes et la signature de ce plan tout à l'heure, tout cela, vous pourrez le suivre sur France Info. Merci beaucoup les informés. Myriam Ankawa, présentatrice de Tout est politique sur France Info TV. Adrien Brachet, journaliste politique au Point. À la une du Point, Adrien.
Monsieur le Président sortait la tête haute. Pourquoi il faudrait organiser des élections présidentielles anticipées en 2026?
C'est une audacieuse. Merci beaucoup Nicolas Taillard, reporter à la rédaction internationale de Radio France. Et merci Renaud.
Merci Agathe.